Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 novembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Ici à Washington, début des audiences publiques de l'enquête parlementaire pour la mise en accusation du président Donald Trump. Amnesty International met en garde contre les violations répétées des droits humains en Guinée. Plusieurs partis d'opposition au Togo demandent la suspension du processus électoral en vue de la présidentielle de 2020. En Angola, le chef de l'UNITA, Isaias Samakuva, tient son dernier congrès en tant que président du principal parti d'opposition. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le Congrès américain a donné ce matin le coup d'envoi d'une série d'auditions publiques dans le cadre de l'enquête initiée par les démocrates en vue d'une possible mise en accusation de Donald Trump. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans une salle comble et sous l'œil des caméras, la Chambre des représentants a entamé l'interrogatoire de Bill Taylor, ambassadeur américain par intérim à Kiev, et George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les deux diplomates ont déjà raconté à huis clos ce qu'ils considèrent comme des efforts déployés par des proches du président pour forcer l'Ukraine à enquêter sur Joe Biden, un des candidats à la nomination démocrate. Adam Schiff, le président de la commission des renseignements de la Chambre, a promis que le processus sera mené sans rancœur ni délai. Le président républicain a-t-il invité l'Ukraine à s'ingérer dans nos élections? A-t-il commis un abus de pouvoir? S'est-il demandé? De son côté, le républicain David Nunes a dénoncé une campagne de calomnie, une opération visant, selon lui, à annuler le résultat de l'élection de 2016 et orchestrée par les démocrates, des médias corrompus et des bureaucrates partisans. Ce matin, sur Twitter, le président a dénoncé ce qu'il a appelé un cirque.
Les démocrates de la Chambre des représentants ont donc amorcé une nouvelle phase dans l'enquête pour la mise en accusation du président Donald Trump avec des témoignages publics et télévisés. Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les témoignages à huis clos au Capitole sont maintenant publics. Le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, dirige les audiences. L'un des premiers témoins est William Taylor, ambassadeur par intérim à Kiev, a-t-il dit.
Quelqu'un, je pense, qui fournit un autre service essentiel pour le pays en relatant des faits qui ont été portés à son attention, des faits très troublants dont il a eu connaissance.
William Taylor a déclaré aux représentants qu'il était clair que l'aide américaine à l'Ukraine était liée à la coopération de ce pays à ouvrir une enquête sur un potentiel rival du président Trump, Joe Biden, et son fils Hunter Biden. Également à la barre des témoins, le responsable du département d'État, George Kent, et l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Mary Yovanovitch. Les deux ont dit aux législateurs que Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, avait contourné les voies traditionnelles de la diplomatie américaine. Ils ont aussi souligné que la fourniture à l'Ukraine d'une aide approuvée par le Congrès était liée au respect par Kiev des intérêts politiques personnels du président Trump. Jackie Speier.
Il s'agit d'un cas très grave de corruption.
Les républicains, de leur côté, se concentrent sur le contenu de l'appel téléphonique de Trump avec le président ukrainien, Jim Jordan, représentant républicain.
J'ai confiance en l'appel. J'ai confiance au président Zelensky et au président Trump. Et je suis convaincu que les Ukrainiens ne savaient pas que l'aide avait été bloquée et qu'ils n'ont rien fait pour la débloquer. Voilà des faits. Nous savons tout cela et M. Schiff veut faire du bruit sur autre chose qui n'est pas essentielle à ce qui s'est passé.
Pour le président Donald Trump, ce processus est simplement injuste.
Il n'y a jamais eu de président aussi transparent. C'est une chasse aux sorcières au plus haut niveau et c'est très mauvais pour notre pays.
Quelle sera la suite? Elaine Kamrak de la Brookings Institute.
The impeachment process Le processus de mise en accusation ressemble à un procès devant un grand jury. Actuellement, ils ne font que rassembler des preuves, ils vont porter des accusations, et de toute évidence, les républicains de la Chambre auront l'occasion de rejeter ces accusations.
Ces articles de mise en accusation vont certainement passer à la Chambre de représentants dominée par les démocrates. Par contre, le procès qui s'ensuivra devant le Sénat à majorité républicaine a peu de chances de passer, puisqu'il faudra obtenir le vote de 2/3 de sénateurs américains.
Des frappes israéliennes sur les positions du djihad islamique ont fait au moins 23 morts depuis mardi à Gaza, d'où des salves de roquettes continuent de viser Israël dans une escalade qui ne donne aucun signe d'apaisement. L'armée israélienne a divisé des positions des islamistes, notamment un site où des combattants s'apprêtaient à tirer un missile anti-char sur Israël. Un attentat au véhicule piégé à Kaboul a fait 12 morts et 20 blessés, dont 4 étrangers, qui étaient la cible de l'attaque, indiquent les autorités. L'attentat a mené à l'aide d'un minibus chargé d'explosifs, visé un 4x4 de l'entreprise de sécurité étrangère Garda World, a dit dans la matinée un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lors du Forum de Paris sur la paix, les présidents tchadiens Idriss Déby et nigérien Mamadou Issoufou ont déploré ce mercredi un manque de solidarité de la communauté internationale face aux défis sécuritaires dans le Sahel. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
D'après le président tchadien, le G5 Sahel n'a rien reçu sur les 12 milliards de dollars de promesses faites par la communauté internationale pour le développement des régions touchées par le terrorisme. Idriss Déby Itno souligne aussi que cette force régionale n'a toujours pas bénéficié des 400 millions de dollars promis pour son équipement.
Les questions qu'on nous pose, pourquoi le G5 Sahel n'est pas, contre force conjointe G5 n'est pas opérationnel. Mais avec quoi nous allons rendre opérationnel cette force G5? Avec nos moyens, d'autant plus que les terroristes sont mieux armés que nos armées, mieux équipés que nos armées. Voilà le contraste.
Pour sa part, le président nigérien a souhaité que la force du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mahamadou Issoufou a lui aussi déploré le manque de solidarité de la communauté internationale à l'égard du G5 Sahel.
Normalement, dans l'instauration de la sécurité, la communauté internationale doit se mobiliser. Mais on ne sent pas cette solidarité de la communauté internationale qui a ses regards ailleurs, alors que les responsables de ce qui s'est passé en Libye.
En septembre, les pays de la région ont promis 1 milliard de dollars à la force du G5 Sahel. La France a déployé plus de 4 000 soldats dans la région, en plus des 16 000 casques bleus de la MINUSMA au Mali.
Un chef coutumier du village de Boni a été tué mardi dans la région de Tillabéri au Niger. Ali Maïna Sara a été enlevé lundi par des hommes armés et son corps a été retrouvé hier, affirme un de ses proches, ajoutant que les assaillants ont incendié sa maison. Depuis avril, au moins 4 chefs traditionnels et 4 responsables Touareg ont été tués dans des attaques attribuées aux islamistes. Les violations des droits humains se multiplient en Guinée et menacent de s'aggraver avec la présidentielle de 2020. S'alarme Amnesty International dans un rapport appelant le gouvernement à modifier les lois sur l'usage de la force et à cesser de recourir à l'armée lors des manifestations. 70 manifestants et 3 membres des forces de l'ordre ont été tués depuis 2015 lors de rassemblements selon Amnesty. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Plusieurs partis d'opposition au Togo demandent la suspension du processus électoral en vue de la présidentielle prévue en 2020. Cette plateforme d'opposition a également demandé l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir, la recomposition de la Cour constitutionnelle et le réaménagement de la commission électorale. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
C'est à l'initiative de Mgr Philippe Fanoko Podzro que des rencontres ont eu lieu entre des partis d'opposition et des organisations de la société civile. À l'issue de ces rencontres, plusieurs partis d'opposition, dont le parti de la coalition dissoute de la C14 et Togo Debout, une association de la société civile, ont demandé mardi la suspension du processus électoral. Ils ont également appelé à l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir, la recomposition de la Cour constitutionnelle et le réaménagement de la Commission électorale nationale indépendante. Les deux grands partis de l'opposition, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, et le PNP, le Parti national panafricain, n'ont pas répondu à l'invitation de l'archevêque. Une mission conjointe des Nations Unies, de la CEDEAO, est à Lomé cette semaine pour assurer des élections crédibles et transparentes. La présidentielle se tiendra au plus tôt le 19 février et au plus tard le 5 mars 2020 au Togo, a indiqué fin octobre la Cour constitutionnelle.
Rached Ghannouchi, chef historique des Nada, arrivé en tête des législatives d'octobre en Tunisie, a été élu président du Parlement avec 123 voix sur 217. Il a accédé à la présidence de l'Assemblée après un accord avec le parti libéral Kalb Tounes de Nabil Karoui. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, la Minute Éco présentée par Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Nathalie. La Guinée réattribue l'exploitation d'un immense gisement de fer à la société minière de Boké, SMB. Cette offre concerne deux des quatre blocs de Simondou, un des plus importants gisements de fer au monde. La SMB évoque un investissement de plus de 10 milliards de dollars sur 5 ans. Elle promet de favoriser les communautés locales et soutenir des projets agricoles même après le projet. Le climat des affaires et des investissements s'est sensiblement amélioré en Côte d'Ivoire ces dernières années, estiment des organisations patronales. Elles dénoncent toutefois la mauvaise gouvernance et l'insuffisance des financements des PME. Ces organisations plaident pour un renforcement des infrastructures dans l'énergie, les services publics, les transports et les communications ainsi que l'Internet. Pour terminer, Noumsa et Saka appellent le personnel navigant et technique de South African Airways à une grève à compter du vendredi 15 octobre pour dénoncer les suppressions d'emplois prévue dans la compagnie aérienne sud-africaine. Noumsa et Saka, qui représentent plus de 3 000 salariés, réclament une sécurité de l'emploi pour au moins 3 ans et une augmentation de 8 % de leur salaire. Ils exigent aussi la démission du conseil d'administration qui, selon eux, a délibérément détruit l'une des meilleures compagnies aériennes au monde à cause d'une mauvaise gestion, un pillage effréné et la corruption.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Début aujourd'hui des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.
8 entrées en matière réussies pour la République centrafricaine qui a disposé du Rwanda 2-0 à Bangui. Le Malawi a pris le dessus sur le Soudan du Sud 1-0. À suivre aussi ce soir, Namibie, Tchad, Burkina Faso, Ouganda, Cameroun, Cap-Vert, Nigeria, Bénin ou encore Sénégal, Congo.
L'Afrique du Sud surprend la Côte d'Ivoire à la CAN des moins de 23 ans.
Opposé à la Côte d'Ivoire hier, les Sud-Africains se sont imposés 1-0. C'est la première victoire pour l'Afrique du Sud dans cette compétition. Elle qui avait été accrochée 0-0 en ouverture par la Zambie. La nation arc-en-ciel prend du même coup la tête du groupe B avec 4 points. Devant le Nigeria qui a battu la Zambie 3-1. Lundi, l'Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à sa victoire 3-2 devant le Ghana.
Bernardo Silva est suspendu et mis à l'amende.
Le Portugais de Manchester City a été suspendu pour un match et sanctionné d'une amende de 60 000 euros par la fédération anglaise. Dans un tweet en septembre, il avait comparé son coéquipier Benjamin Mendy à un personnage noir d'une marque de biscuits. Bernardo Silva avait rapidement retiré le tweet, mais a admis qu'il avait pu choquer certaines personnes en raison des connotations historiques du personnage Cogitos, joueur clé des Sky Blues cette saison. Le Portugais va donc manquer le choc face à Chelsea, troisième à un point de City, prévu le 23 novembre.
Des athlètes américains sont opposés à la réforme de la Ligue de Diamants.
Oui, dans une lettre ouverte adressée à Sébastien Coué, président de l'I2AF, ces athlètes américains dénoncent la nouvelle formule de la Ligue de Diamants qui écartera l'an prochain 4 épreuves de la plupart de ses meetings. La semaine passée, l'I2AF a annoncé la suppression du triple saut, du 200 mètres, du 3000 mètres steeple et du lancer du disque du programme d'un certain nombre de meetings au calendrier de cette compétition. Elle espère que cette refonte permettra aux meetings raccourcis dans leur durée de mieux séduire les diffuseurs.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Les violations des droits humains se multiplient ces dernières années en Guinée et menacent de s'aggraver avec la prochaine présidentielle, s'alarme Amnesty International. Malgré des dizaines de plaintes, l'impunité continue d'être la règle, souligne le rapport de l'ONG. Bagassi Koura a joint à Conakry François Patuel, chercheur d'Amnesty International, qui a travaillé sur le dossier.
Les manifestations sont réprimées et la liste des personnes qui décèdent dans ces manifestations continue de s'allonger. Ensuite, parce que il y a des personnes qui expriment une dissidence, ou plutôt quand des personnes expriment une dissidence, que ce soit des journalistes ou des défenseurs des droits humains ou des militants pro-démocratie, eh bien, ils sont souvent arrêtés ou victimes de harcèlement judiciaire. Et tout cela se passe dans un climat d'impunité. Les autorités refusent de reconnaître les problèmes et peu de personnes font face à la justice quand elles commettent des violations des droits humains.
Récemment, il y a eu quand même assez de manifestations. Est-ce qu'on sait le bilan des victimes?
Oui, il y a beaucoup de manifestations en ce moment en Guinée parce qu'on approche d'une année électorale. 2018 était déjà une année électorale avec les élections locales. En 2019, il y a déjà des inquiétudes de la société civile sur les élections présidentielles de 2020. Donc il y a le Front national de défense de la Constitution qui a organisé plusieurs manifestations. Et malheureusement, les autorités ont tendance à interdire ces manifestations de manière arbitraire. Et les forces de sécurité considèrent que c'est leur devoir d'utiliser la force, quitte à utiliser la force, d'empêcher les gens de se regrouper quand les manifestations sont interdites. Sur le terrain, ça aboutit à une situation où les personnes qui bravent l'interdiction des manifestations eh bien, sont régulièrement blessés et tués dans ces manifestations. Nous avons censé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 décès dans le contexte de ces manifestations. Nous avons des éléments comme des témoignages de victimes, de témoins, de personnel médical, mais aussi d'avocats qui laissent penser que ce sont les forces de sécurité qui sont impliquées dans au moins 59 cas des décès de manifestants et de passants lors de ces manifestations.
Et que vous disent les autorités justement concernant ces violences?
Alors la première chose, c'est qu'on a été reçus par plusieurs autorités. On remercie d'ailleurs les autorités pour leur ouverture et leur transparence. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Sécurité, le directeur national de la police, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Donc, il y a eu un engagement du ministre de la Justice en particulier de dire qu'à l'avenir, les personnes seraient libres de manifester de manière pacifique et on espère que eh bien, les autorités guinéennes tiendront leurs engagements afin de créer un climat apaisé à l'approche des élections présidentielles de 2020.
François Patuel est chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest. Il était joint à Conakry.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, nous évoquons l'alternance à la tête des partis politiques. En Angola, l'UNITA, parti d'opposition, change de chef. Au Cameroun, John Frundi a passé le relais à la tête du SDF, le principal parti d'opposition. L'alternance doit-elle être encouragée au sein des partis politiques? Venez en discuter en direct en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À votre avis, c'est à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique.
En Angola, le principal parti d'opposition, l'UNITA, tient un congrès qui devra élire vendredi un nouveau chef. Après 16 ans à la tête de l'UNITA, Isaias Samakuva se retire volontairement de ses fonctions. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le député candidat à la présidence du parti, Raoul Manuel Danda.
on a 16 candidats qui sont dans la course vers la présidence de l'Union. Cela démontre d'abord qu'il y a un niveau de démocratie acceptable, et en plus que voilà, il y a vraiment des discussions qui se tiennent, qui se produisent au sein du parti, parce que il y a de la volonté de conduire le parti, et puis il y a de l'intelligence, disons, de la part des uns et des autres pour pouvoir faire ce travail.
Est-ce que ça signifie que l'UNITA va changer d'orientation dans la manière de mener sa vision politique?
C'est pas qu'il y aura changement en ce qui concerne le fond. C'est-à-dire, l'UNITA est basée sur 5 principes qu'on appelle principes de Mondai. Ce sont des principes qui ont été établis lors de la création de l'UNITA en 1966. Et ce sont des principes. Mais là, la façon de conduire la machine, la façon de conduire la chose, le dynamisme qu'on va y mettre, c'est ça la différence. On a eu un parti conduit par le Dr Savimbi avec son dynamisme, avec sa façon de mener les choses. On a après eu le président Samakouva pendant 16 ans. Il a mené le parti d'une autre façon, compte tenu de sa façon d'être. Il est vrai maintenant qu'il va avoir un autre président, et moi aussi je suis un des candidats. Celui qui va remporter les élections maintenant, bien sûr, qu'il va pouvoir faire une chose, atteindre le même objectif, mais suivre peut-être un chemin différent.
Quelle est la valeur ajoutée que vous comptez apporter si vous êtes porté à la tête de l'UNITA?
On a toujours accusé l'UNITA d'être un parti dont la direction vient toujours du sud de l'Angola, du centre-sud de l'Angola. On est 5 candidats, moi je suis le seul candidat, le premier candidat qui se présente venant d'une autre région. Moi je suis du Kabinda. Moi j'ai été vice-président du parti pendant 4 ans. Dans mon projet, il y a priorité absolue sur la question du genre. Donc pour moi, les femmes doivent être dans la direction du parti, dans toutes les structures du parti, au moins à 45%. Et je veux atteindre le 50%, c'est ce que je veux. J'ai une attention spéciale vers la jeunesse, parce qu'il me trouve que la jeunesse, c'est la continuité de notre parti. Les hommes meurent, l'organisation continue toujours, et il faut qu'on prépare les jeunes pour donc prendre cette tâche et pouvoir marcher d'une façon ferme dans la conduction du parti. Et puis, je vais regarder les ex-soldats. Il y a le protocole de Lusaka qu'on a signé avec le gouvernement. L'UNITA a accompli sa partie, mais il y a des choses que le gouvernement ne fait pas, alors il va falloir qu'on parle avec le gouvernement pour voir comment résoudre ces problèmes.
Raoul Danda est député et candidat à la présidence de l'UNITA en Angola.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, l'enquête initiée par les démocrates au Congrès en vue d'une possible mise en accusation de Donald Trump entre dans une phase critique avec le début des auditions publiques de témoins. Cette procédure visant un président n'avait pas été tenue depuis plus de 20 ans et elle risque de diviser davantage le pays à un an de la présidentielle. Les républicains continuent de se rallier autour du président que les démocrates accusent d'abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne. Nous allons évoquer les implications politiques de cette procédure avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La Cour suprême des États-Unis se penche sur le sort d'environ 800 000 Dreamers, ces jeunes sans papiers arrivés aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient enfants. L'administration Trump a supprimé le programme DACA, initié par le président Obama, qui leur permettait de continuer de vivre et travailler aux États-Unis. Voici un reportage de Zlatika Hawk. Le récit est de Michel Joseph.
Les Dreamers et leurs partisans se sont mobilisés mardi en grand nombre devant la Cour suprême, ici à Washington, pour exhorter les juges à déclarer illégale la décision du président Trump de supprimer le programme DACA. Étudiant en médecine, né au Mexique, Sirenio Cervantes était du nombre.
Lorsque le président Trump a supprimé le programme DACA, tous mes rêves se sont effondrés. Toute ma vie, j'ai travaillé dur et le président Trump, en supprimant DACA, me signifie que mon avenir n'existe pas.
Les défenseurs des droits des immigrants entendent pour leur part poursuivre la lutte, quelle que soit la décision de la Cour suprême, assure l'activiste Omar Engel Pérez.
Nous savons que nous ne pouvons rien attendre de positif de cette administration. Mais nous savons aussi que la communauté immigrée est forte. C'est une force qui se fait sentir dans tout le pays.
On s'attend à ce que les juges conservateurs de la Cour suprême confirment la suppression de DACA en disant que sa création était illégale, une thèse défendue par l'administration Trump. Mais pour les partisans de DACA, dont Microsoft et l'université Princeton, l'attention doit plutôt se porter sur la nécessité de protéger les jeunes sans papiers. Brad Smith de Microsoft.
C'est important pour Microsoft pour les mêmes raisons que pour d'innombrables employeurs et pour Princeton. Nous dépendons des Dreamers. Nous en avons 66 comme employés et ils font un travail très important pour nous.
Certains experts estiment que c'est au Congrès et non aux tribunaux ou au président que revient la tâche de décider du sort du programme DACA. La suppression par l'administration Trump de ce programme en 2017 a été bloquée par plusieurs juges fédéraux et cours d'appel.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la technique. C'était Georges Léonard Sagnot. Mais avant de nous quitter, on va vous passer un morceau de musique de Paul Mansiamina qui va vous rappeler les années passées. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui présenté par Nathalie Barge. Restez avec nous dans quelques petites secondes. Un rappel des grands titres de l'actualité qui vous sera présenté par Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ça peut te servir, ça peut te dépanner.
Afrique. Les